Merci donc pour ce chant en introduction de cette prédication. Une prédication que j'ai intitulée « Une foi à toute épreuve ». Et c'est dans le chapitre Hébreux 11. Alors on va commencer par quelque chose de trivial, avant de rentrer dans le dur du sujet. Petite image, s'il te plaît. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Oh, je vais vous le dire en anglais, je vais faire mon intéressant. C'est le Hollywood Walk of Fame. Donc, c'est le trottoir d'une célébrité à Hollywood, si vous préférez. Hein? Beaucoup de célébrités, que ce soit artistiques, sportives ou politiques, sont honorées au moyen d'une étoile qui est scellée dans le trottoir et dans laquelle étoile on a gravé leur nom. J'imagine que vous avez au moins une fois vu ces choses ou entendu parler de cela. Et j'ai même découvert, si tu veux passer l'image suivante, que même Jésus, fils de Dieu, avait son étoile. Eh oui, comme quoi, nul n'est à l'abri. Une manière moins glamour, mais tout aussi valorisante, si tu veux bien passer à la suite, d'honorer des personnes ayant réalisé des choses exceptionnelles consiste à leur dédier un mémorial, ou un musée, ou un temple de la renommée. C'est l'objet, par exemple, du Panthéon, à Paris. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est ce qui est marqué sur le fronton, n'est-ce pas? Et depuis peu, aux grandes femmes aussi. Le Panthéon a vocation à honorer de grands personnages qui ont marqué l'histoire de France. Et c'est aussi, en quelque sorte, l'objet du célèbre chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, qui est une liste de grands héros de la foi à travers lesquels Dieu a beaucoup accompli. En parlant des grands héros de la foi, vous êtes-vous jamais demandé comment nous aussi, nous pourrions avoir le même genre de foi que eux, ils avaient? Vous savez, la vie ici-bas, elle est dure. Elle était dure il y a... Il y a combien d'années qu'ils étaient là? 3000? Mais elle est dure maintenant aussi. Elle n'est pas la même. Mais elle est dure aussi. Et nous avons besoin de savoir que Dieu est réel. Qu'il est vrai. Qu'il connaît notre situation et qu'il peut nous aider. Vu qu'on parle de foi, regardons un peu de plus près ce que signifie le mot foi. Ça vient du latin fides, qui signifie confiance. C'est un mot de la même famille, foi, confiance, fidélité, tout ça. Voilà, c'est la même famille. Étymologiquement, la foi désigne le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. La Bible, dans notre texte, ne nous donne pas de définition de la foi, mais elle la caractérise au moyen d'une double description. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Alors, ce n'est pas la même traduction que vous avez forcément l'habitude, c'est une traduction en français courant. C'est histoire de vous faire réfléchir un peu. En d'autres termes, la foi, c'est-à-dire croire en Dieu, rend présent l'avenir et rend visible l'invisible. Ce qui n'est pas encore, eh bien, on le considère comme si c'était déjà. Et ce qui n'est pas encore à notre portée ou à notre portée de vue, eh bien, on le voit déjà comme si c'était réalisé. Et c'est ce qui fait la force du croyant, parce que la foi réalise les choses que l'on espère, comme si on les tenait déjà. Nous avons l'assurance de leur réalité. En même temps, la foi est une vue de ce qui est caché. Elle nous donne, sur ce qui est invisible, la même certitude que pour les choses visibles. Et ce matin, nous nous arrêterons plus particulièrement sur les exemples de foi que sont Abraham, parce qu'il y est évidemment, et Sarah. Nos deux héros font suite à Abel, témoin du sacrifice expiatoire et de la rédemption, puis à Enoch, témoin de la marche en communion intime avec Dieu, et enfin à Noé, témoin de la justice de Dieu. Abraham vient en quatrième et Sarah en cinquième. Notons au passage que les exemples cités, donc ces trois premiers, mais aussi les suivants font ressortir la foi comme principe d'obéissance, de confiance, de patience et d'énergie, parce qu'il ne s'agit pas juste d'être assis et d'attendre. Cette foi est dynamique. Et vous remarquerez que, curieusement, l'Esprit Saint ne signale que les actes de foi des témoins. Parce que nous qui connaissons un peu leur histoire à ces gens-là, on le sait bien, on connaît leurs faiblesses, leurs fautes, leurs doutes en de nombreuses occasions. Mais curieusement, quand on lit Hébreux 11, il n'est pas fait mention de leurs fautes, de leurs manquements, de leurs doutes, mais uniquement de leur acte de foi. C'est comme si l'acte de foi effaçait les doutes et les manquements qui l'ont précédé. Car si le doute est humain, si la faiblesse est humaine, si la faute est humaine, la foi, elle, vient de Dieu et surpasse tout ce qui est humain. Verset 2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Eh oui. Et ainsi en est-il d'Abraham, le père de tous ceux qui croient, et père de la foi. La suite, s'il te plaît. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse, de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. En quelque sorte, c'est comme si Dieu avait dit à Abraham, « Je veux que tu déracines ta famille, que tu abandonnes tout ce que tu connais, ton environnement familier, tout et tout, et que tu ailles dans un endroit où tu n'es jamais allé et où tu ne connais rien de rien, ni même la langue, ni rien. » Ne t'inquiète pas, t'inquiète. Ne t'inquiète pas de savoir où se trouve cet endroit, je te le dirai quand tu y seras. Avouez qu'on a quand même connu mieux comme manière d'être assuré. Je ne sais pas combien d'entre nous ici seraient partis à l'aventure les yeux fermés. Surtout qu'il avait 75 ans. On a quelques anciens parmi nous. Imaginez-vous, le jour où vous aurez 75 ans ou le jour où vous avez eu 75 ans, Dieu vous appelle à partir les yeux fermés en emmenant votre famille, vos affaires, sans savoir où. Dur, dur. Il lui a fallu beaucoup de foi à Abraham pour faire confiance à Dieu. Et cela lui a aussi demandé beaucoup de sacrifices. Il lui a fallu vivre comme un migrant. Et vous savez que les migrants, comme ils sont considérés, c'est pas folichon, hein. Il a vécu comme un réfugié, dans des tentes, sans vraiment pouvoir s'installer. Bien sûr que Dieu allait faire de grandes choses. Il allait lui donner la terre promise, avec une foule innombrable de descendants, qui deviendrait plus tard un nouveau pays et une nouvelle nation appelée Israël. Oui, d'accord. Sauf que Dieu n'avait encore rien fait de tout cela au moment de la promesse. Nous, on le sait parce qu'on a le recul, mais Abraham, lui, il sait rien. Juste, il y a une promesse. Pour que la foi soit une foi vivante, elle doit non seulement obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire, il obéit, il est parti, mais elle doit aussi être ferme et endurante. Il est parti, il a continué, et continué, et continué jusqu'à ce qu'il soit arrivé sans jamais savoir à l'avance s'il y serait arrivé. La foi doit aussi être ferme et endurante, quitte à devoir attendre toute une vie, ou même plus, pour voir son accomplissement. C'est par cette foi vivante en Dieu seul qu'Abraham a pu surmonter des obstacles qui étaient insurmontables d'un point de vue humain. D'abord, il a obéi aveuglément à une vague promesse de Dieu faisant de lui une grande nation. Il a suivi l'appel de Dieu pour aller vivre dans une terre étrangère, y habitant sous des tentes, sans ne jamais rien y posséder, hormis un petit lopin de terre qu'il avait acheté pour enterrer sa femme. Mais à part ça, il n'y possédait rien. Mais c'est parce qu'il gardait les yeux rivés sur le ciel, c'est-à-dire sur la promesse divine, qu'il a pu supporter cette situation précaire. C'est parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La suite. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Eh oui, autre obstacle surmonté par Abraham, celui de son corps usé par l'âge. La Bible dit qu'il était déjà marqué ou atteint par la mort, et même la version Darby le présente comme un homme déjà amorti. C'est pour vous dire l'élégance. Ben oui, il avait 99 ans tout de même. Et à 99 ans, il avait déjà depuis longtemps dépassé l'âge de procréer. Et pourtant, il a cru en la promesse de Dieu. Certes, il a ri, il a douté. Imaginez l'effet de surprise. 99 ans, on vous annonce que vous allez avoir un fils qui va engendrer une postérité phénoménale, tellement grande qu'on ne pourra la compter. Il y a de quoi rire, sur l'effet surprise, les nerfs peut-être, mais peut-être le doute aussi. Ben, il est humain aussi. Hein. Oui, il a ri, et il a douté, mais il ne s'en est pas arrêté là. Parce qu'il a cru par la suite, et il a continué à marcher fidèlement, comme si cette promesse était déjà réalisé. Il y a eu le doute, mais ensuite la foi qui a surpassé le doute. Et l'exemple de Sarah est frappant lui aussi. Nous savons que dans un premier temps, elle a fait preuve d'incrédulité à l'égard de la promesse de Dieu. Oh ben oui, elle aussi l'a rigolé, pas qu'un peu. Mais comment un vieil utérus pareil pourrait-il engendrer quelque chose? Et la foi a été plus forte que le doute. Et la foi a triomphé de ses doutes, et cette foi fut la source de la puissance pour fonder une postérité à travers elle, bien qu'elle fût stérile et hors d'âge. Quand il s'agit du cognac et du whisky, le hors d'âge n'a pas de prix, mais pas en matière de vieille dame. Cette même foi qui triomphe du doute peut en nous aussi révéler le secret de la puissance pour surmonter des obstacles insurmontables pour l'homme. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et la promesse de Dieu faite à Abraham et à Sarah est accomplie. Et oui, Dieu est fidèle. Mais les obstacles, les épreuves ne s'arrêtent pas là. Le fils est né, ok. Il a grandi. Mais ça a bien failli tourner court. Parce que dernier obstacle, et non des moindres, auquel Abraham a dû faire face, l'épreuve au sommet d'une montagne, au pays de Morija, où il s'apprête à obéir à l'ordre de Dieu en sacrifiant son fils Isaac, héritier de la promesse.
C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve.
Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Car il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Nous qui connaissons cette histoire, nous savons que Dieu l'en a empêché au dernier moment. Et parce qu'Abraham a prouvé qu'il respectait l'autorité de Dieu par-dessus tout, Dieu lui a renouvelé sa confiance et sa promesse. Voyez-vous, et c'est valable pour nous aussi. Pour que la foi soit authentique, elle doit être traduite en actes. Croire, c'est agir. C'est pas juste attendre. C'est aussi agir. Avec l'assurance inébranlable que Dieu pourvoira au-delà de ce qu'on peut imaginer, au bénéfice de celles et ceux qui ont confiance en lui et qui attendent patiemment l'accomplissement de la promesse. Attente, patience, action. Parfois même, l'accomplissement peut prendre plusieurs générations. Et c'est ce qui s'est passé pour certains des héros de la foi cités en exemple dans ce chapitre. Abraham et Sarah, mais aussi Isaac et Jacob, ont reconnu être étrangers et passagers sur la terre de la promesse. Et ils sont morts en croyant aux choses promises sans en avoir vu l'accomplissement. Car ni les uns ni les autres n'ont possédé la terre promise. Leur foi leur avait donné l'assurance de la réalité de l'accomplissement. Leur foi avait rendu présent l'avenir et rendu visible l'invisible. C'est pourquoi, voyant de loin l'accomplissement de la promesse, ils l'ont saluée comme si elle était déjà accomplie. Vous savez, c'est un peu comme des navigateurs sur un bateau. Ils cherchent une terre. Ils voient au loin la côte qui se dessine, mais ils n'y sont pas. Il y en a peut-être encore pour plusieurs jours à naviguer. Mais ils ont aperçu la côte au loin. Et pour eux, c'est bon. C'est comme s'ils avaient déjà débarqué. C'est comme s'ils étaient déjà sur terre. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, oh ben ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Leur confiance était si forte que même en rendant leur dernier souffle, ils n'ont jamais remis en cause le fait que la promesse s'accomplirait un jour au bénéfice de leurs descendants. Bon, moi je ne le verrai pas, mais ce sera pour mes descendants ou pour les descendants de mes descendants. Cela devrait nous encourager à vivre nos vies avec cette même foi qui rend visible l'invisible et qui accomplit ce qui ne l'est pas encore. Ce n'est pas parce qu'une promesse n'est pas tenue de notre vivant que cette promesse est fausse ou qu'elle a failli. Prenez par exemple la promesse que, après nous avoir préparé une place, Jésus reviendra un jour et nous prendra avec lui, afin que, là où il est, nous y soyons aussi. Cette promesse, elle date d'il y a 2000 ans. Des générations et des générations et des générations de croyants sont passées, n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse. Et peut-être que nous, on la verra pas, on ne sait pas. Ce n'est pas pour autant qu'elle est fausse ou qu'elle a failli. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour, Mais jusqu'à ce jour, nous devons être comme les patriarches et nous considérer comme des étrangers et des voyageurs dans notre vie quotidienne. Même si leur existence chaotique et instable à Canaan leur a donné de nombreuses occasions de retourner dans leur patrie d'origine, les patriarches ont refusé d'être terre à terre et d'y retourner. Ils se sont accrochés à la promesse qu'une meilleure patrie leur était préparée dans une cité céleste. Et comme ils espéraient à une meilleure patrie, c'est-à-dire à la patrie céleste, Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Et non seulement il n'en a pas honte, mais il en est fier au point de leur préparer cette cité. Dieu avait promis aux patriarches de recevoir un pays où coule le lait et le miel. Mais cette promesse de recevoir un pays où coule le lait et le miel n'était rien comparé à la promesse d'une cité où il n'y aurait plus de faim ni de soif, plus de mort ni de larmes, ni de deuil, plus de cris ni de douleur, et où ils pourraient voir Dieu et lui parler face à face. Parce qu'ils ont vécu leur vie comme des étrangers et des voyageurs sur les voies du monde, avec la confiance inébranlable que Dieu tiendrait ses promesses même face à la mort physique, Dieu leur a donné l'un des plus grands témoignages jamais donnés à l'humanité. Je n'ai pas honte d'être appelé leur Dieu. Oh, je n'ai pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Oserions-nous dire, Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu? Pour conclure, je vais vous demander un petit effort d'imagination, voire même un gros effort. Imaginez qu'il ne vous reste plus que quelques jours à vivre sur cette terre et que vous deviez mettre des choses en ordre. Quelle serait votre priorité absolue? La maison? La voiture? Le compte bancaire? Ou plutôt de savoir si vous êtes prêt ou non à rencontrer votre Créateur? Voilà ce qu'écrivait Paul à ce sujet en 2 Timothée. Le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et toi? Tu as combattu, certes. Mais quel combat as-tu combattu? Oui, ok, tu as pris part à la course. Du moins, tu étais sur la ligne de départ. Tu as même démarré. Peut-être pas en même temps que tout le monde, peut-être après ou peut-être avant, peu importe, tu as démarré, tu es parti. Mais as-tu achevé ta course? Et dans quel état? As-tu gardé la foi jusqu'au bout? Cette foi inébranlable qui rend présent l'avenir et qui rend visible l'invisible. Alors que tu entreras dans sa présence, est-ce que tu t'attends à entendre ton maître te dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur, viens te réjouir avec moi ». Étant donné que nous n'avons qu'une seule vie à vivre et qu'il est peu probable, que nous sachions quand nous allons mourir, la seule manière de bien terminer notre vie aux yeux du Christ consiste à mettre en acte du temps de notre vivant la même foi qui animait nos fameux héros de la foi. Vivons pleinement cette vie juste que Dieu nous donne à vivre dès à présent. Et permettez-moi de terminer en vous laissant cette dernière question à méditer. Si je mourais aujourd'hui, Dieu aurait-il honte d'être appelé mon Dieu? Amen.